l'émission des étudiants de l'UVSQ.
Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines.
Actu de la fac,
bon plan étudiant,
chronique,
débat,
coup de gueule,
clash,
rubrique culinaire,
factualité,
c'est tous les samedis à 10h,
le mardi à 15h,
le jeudi
à 15h
et le mercredi à 20h.
Factualité sur Marmite FM
88.4. Bienvenue sur Marmite FM 88.4, de retour pour la seconde partie de Factualité. Au studio pour vous servir, Toinou, Marvin, Aïcha, Mathilde, Zino, Antoine et Caro. Hier, nous avons parlé du projet Underrun MCO avec deux étudiants du M2, master de la communication et de l'organisation. On a ensuite parlé du procès de l'abattoir de Vigan avec Mathilde et enfin du chef-d'œuvre de Marcel Duchamp avec Marvin. Eh bien, au programme de cette émission, Caro traitera de l'émission Au tableau, Aïcha, quant à elle, nous parlera du film La Belle et la Bête et enfin, on terminera l'émission avec Antoine et Zino et leur top 8 des métiers les plus insolites. Aujourd'hui, on a un invité avec nous. Il s'agit de Rolando. Bonjour Rolando.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Je vais bien, merci. Merci de m'inviter.
C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui au studio de Factualité. Rolando, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots aux auditeurs ?
Ok. Moi, je m'appelle Rolando Cruz. Je suis un élève de l'Estaca. Je viens du Costa Rica. Je suis venu ici avec une bourse d'excellence pour faire des études en France d'ingénieur en aéronautique. Et j'ai passé 2 ans à Toulouse, où j'ai connu plein de choses tellement intéressantes. J'ai connu surtout plein de danses à deux différentes. Je suis venu ici à l'Estaca depuis cette année. Et du coup, je cherche parmi l'UVSQ et parmi l'Estaca les activités culturelles qui pourraient me rendre cette super joie de vivre que j'ai trouvée à Toulouse, non?
Ok, oui, Marvin.
Pas trop déçu, pas trop dépaysé par rapport à Toulouse?
J'étais déjà assez dépaysé par rapport au Costa Rica.
Tu m'étonnes.
Je me suis adapté à Toulouse. Et en ce moment, je suis en train de m'adapter à la région de Saint-Quentin en Yvelines. Mais je trouvais que des plus belles choses que j'ai trouvées jusqu'ici, je pense que c'est l'atelier de théâtre où on est ensemble les élèves de l'Estaca et de l'UVSQ. Du coup, il y a des échanges très intéressants que je pense se donnent rarement dans d'autres espaces. Mais, et du coup maintenant, on est en train de commencer avec une élève de l'UVSQ. On essaie de commencer un atelier de danse à deux, où on va enseigner des danses comme le rock et la salsa, gratuites pour les étudiants de l'Estaca et de l'UVSQ pour continuer à proposer des espaces comme cela.
Est-ce que c'est en cours ou fin...
C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place à la maison de l'étudiant. Et en ce moment, c'est que la seule chose qui nous retient, c'est une convention signée par les deux établissements, qui ensuite nous permettrait de démarrer.
Mm-hmm. Ouais, c'est super cool, mais t'envisages de le commencer quand, ce projet ?
Le projet, on a commencé à penser et à planifier le projet depuis le début de l'année. On a été arrêté lorsqu'on a présenté ce projet à la maison de l'étudiant pendant un moment, pour une question d'assurance et de titre de professeur, puisque à la base, on est censé être nous, les étudiants, les professeurs. On a une prof pour faire du rock, pour faire de la salsa, pour faire de la bachata et pour faire du West Coast Swing. Ensuite c'est puisqu'on n'a pas de titre de prof qu'on cherche à faire une convention pour pouvoir le démarrer le plus tôt possible.
Ok, et donc toi, tu serais un professeur de quelle danse?
Des 4.
Ah, des 4?
Oui.
Waouh. Rock, salsa, bachata et West Coast Swing.
Mais il faut aller à Toulouse, hein. C'est vraiment une très belle ville.
Je crois qu'on a un rôle pour toi pour le Printemps des Arts.
Oui, moi je serais...
Ok, donc tu as un talent de danseur, est-ce que tu as d'autres talents cachés? Tu m'as dit que tu fais partie de l'atelier théâtre, c'est ça? Donc
oui.
Tu es un comédien...
C'est trop bien, c'est génial.
Bah, peux-tu nous en dire plus sur l'atelier théâtre? Quand est-ce que ça a lieu?
Oui, l'atelier théâtre est aussi une autre initiative qui met ensemble les élèves de l'Estaca de l'UVSQ. Et cette année, elle a eu lieu tous les mardis soirs au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Et c'est vraiment bien parce qu'on est encadré par des professionnels. Et du côté de l'UVSQ de l'Estaca, le tarif est assez léger, n'est-ce pas?
Il s'agit de... du côté de l'UVSQ, il y a 28 euros. Donné au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines et 15 euros à l'UVSQ.
Du côté de l'Estaca, il suffit d'être adhérent au bureau des arts et ensuite on peut y assister. C'est vraiment quelque chose de très riche, dans lequel on connaît des gens très intéressants, et aussi on est encadré par des gens qui sont vraiment géniaux, et du coup c'est souvent des bonnes heures qu'on passe là.
Ah bah c'est toujours deux bonnes heures qu'on
passe.
Ah oui,
bah Caroline,
elle
en fait partie aussi.
Le temps passe très vite.
Oui, tout moi, ça je vois pour pas qu'on parle les... de toi, quoi.
Moi, je vois pas les deux heures passer, de 19h à 21h, c'est non-stop, c'est fou rire garanti, donc on passe de très bons moments, oui, à l'atelier théâtre. Et donc, l'atelier théâtre sera présent au spectacle ?
Oui, au Printemps des Arts, le 30 mars, nous, à l'atelier théâtre, on va faire notre restitution de notre travail pendant l'année. C'est gratuit, mais il faut être inscrit, et pour s'inscrire, il faut envoyer un mail. On va vous présenter les pièces qu'on a pratiquées, qu'on a apprises et qu'on a un peu modifiées au long de cette année. On vous attend parce que ce serait très bien de venir nous voir. On est très contents.
Est-ce que tu peux en dire un petit peu sur le thème du spectacle ?
Cette année, les encadrants nous ont proposé de travailler sur notre relation par rapport aux écrans, au monde des portables. Et des ordinateurs, des réseaux sociaux, de l'image, de voir comment il s'agit de... Vraiment, comment ça nous a pris par le choc à nous, les jeunes de notre génération, qui avons grandi en même temps qu'il y avait l'essor des nouvelles technologies pour la communication. Et du coup, on fait des représentations, on a plusieurs pièces et sketchs qui ne sont pas à la base... dans cette thématique, mais que nous on adapte à cette thématique pour lui donner un nouveau sens et pour parler de ce qu'on pense et de ce qu'on ressent par rapport à ceci.
Et le spectateur, lui, il reste pas passif, il est actif durant ce spectacle. En gros, quand on va jouer, on va interagir avec les spectateurs, avec le public.
Oui, on a quelques sketchs préparés où, par exemple, les spectateurs vont nous proposer des thèmes par rapport auxquels on va parler. Par exemple, on a préparé des discours présidentiels préparés sur place avec la saisie automatique des portables. Alors, les spectateurs vont pouvoir nous proposer des thèmes. Nous, on va écrire ça sur nos portables. Et après, le portable va nous proposer les mots à mettre sur nos discours. Ensuite, on a 10 secondes et hop, on y va avec pour convaincre toute la foule. Enfin, la foule, si vous venez, ce sera une foule. sinon, non.
Ok, juste deux derniers mots sur les intervenants de l'atelier théâtre. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, Aurore et Thomas ?
Alors, les deux encadrants sont Aurore et Thomas. Aurore fait partie d'une troupe de théâtre et Thomas est plutôt dans le cinéma. Il nous a aidé à nous enregistrer aussi dans des vidéos. Il a préparé une vidéo d'introduction. Il nous encadre avec des exercices, avec des exercices d'improvisation, de communication, de groupe. C'est vraiment des gens très intéressants et très capables qui nous ont encadrés pour cette représentation.
Oui, Marvin.
Moi, j'ai vraiment hâte de vous voir jeudi prochain.
Merci.
Je suis intrigué, vraiment.
Merci, génial. C'est cool.
Oui, Zino.
Et quand la danse sera prête, n'hésite pas à revenir nous voir parce que je pense qu'on est plusieurs à être intéressés ici. Donc,
génial, vraiment génial.
Ouais.
Merci.
Ouais.
Pas de problème, je dirai à Caroline.
Non, moi je veux juste dire que ça me touche ce que tu dis parce que j'ai fait un semestre en échange en Suisse et justement on était très proches entre étudiants de l'étranger mais pas avec les étudiants de la fac, quoi. Enfin, j'ai beaucoup d'amis à l'étranger mais pas d'amis suisses et du coup c'est bien ce que tu proposes de faire interagir les deux, quoi.
Ça arrive souvent, ça. J'ai ressenti ça là où je suis allé. Dès que l'Estaca aussi a des programmes des élèves d'échange, et je vois les groupes d'élèves étrangers qui sont toujours entre eux aussi et qui n'arrivent pas à. De la même façon, moi, je n'arrivais pas vraiment à parler avec plusieurs personnes lorsque je devais m'adapter. Et j'ai trouvé que des espaces comme ça font vraiment c'est magique pour nous intégrer. C'est pour ça que je les propose aussi. Mmh. Oui.
C'est une très bonne idée.
Mmh. Merci.
Alors, merci Rolando. Tu restes avec nous pour réagir aux différentes chroniques des animateurs. Eh bien, nous avons parlé avec Rolando de danse, de candidats aux élections présidentielles. Eh bien, ne changeons pas de sujet, car Caro, toi, tu vas nous parler de politique. C'est bien ça ?
Oui, alors pas vraiment de politique, mais un petit peu, on va dire. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'émission Au tableau, qui est passée il y a quelques semaines de cela à la télévision. il est forcé à un moment donné qu'on fasse référence à la présidentielle dans Factualité, puisque c'est quand même la chose principale en ce moment. Mais l'idée d'aujourd'hui, c'est pas d'instaurer un débat politique, puisqu'on n'est pas là pour ça, mais c'est plutôt de faire un décryptage de ce programme, puisqu'il m'a paru important. Donc en fait, ce programme, il s'agit d'un documentaire qui vise à mettre en scène les candidats à la présidentielle dans leur campagne. Comme l'a mis en avant les médias à la suite de sa diffusion, le documentaire inédit donc Au tableau, produit par Mélissa Torieux et Caroline Delage, a connu un bon succès. Diffusé sur C8, cela a permis à la chaîne de faire un bon score au niveau de l'audience avec 1,3 million de téléspectateurs, soit 5,4% d'audience. Il faut savoir que ce soir-là, C8 a dû faire face aux autres chaînes qui ont diffusé des films amenant beaucoup d'audience, et c'est évidemment TF1 qui a dominé la soirée avec la diffusion d'un film avec l'acteur Omar Sy, qui est aujourd'hui un des acteurs préférés des Français. Mais finalement, c'est plutôt une bonne surprise pour C8 avec la diffusion d'un programme totalement inédit. Donc l'idée est simple, c'est recevoir les candidats prétendants à la présidentielle qui va se dérouler dans moins d'un mois, les mettre face à des enfants qui ont entre 6 et 12 ans. Les enfants leur posent alors des questions avec leur naturel, leurs paroles franches et directes, et les candidats doivent y faire face. Donc cela permet de les voir sous un nouvel aspect, beaucoup moins formel et conventionnel comme on voit d'habitude. 4 candidats sont prêts au jeu, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon et Benoît Hamon. Donc on peut noter le manque de Marine Le Pen, mais elle n'a pas souhaité participer à l'émission, et ça a été mis en avant par la production. À savoir aussi que les autres candidats, donc aujourd'hui on sait qu'il y a 11 candidats, mais à ce moment-là, les 11 candidats n'étaient pas sortis, donc c'est pour ça qu'il n'y a eu que d'invités, puisqu'ils étaient sûrs d'être à la présidentielle. Donc cela a donné lieu en fait à des questions très simples, remplies de naïveté, mais aussi à des questions beaucoup plus réfléchies, qui a permis d'apporter et de mêler simplicité et sérieux. On a par exemple pu écouter la réponse d'Emmanuel Macron après que les enfants lui aient demandé naïvement d'expliquer la différence entre la droite et la gauche, ou encore on a pu assister à Benoît Hamon en train d'expliquer son idée de revenu universel, qui n'est pas connue pour les enfants. Donc d'un point de vue purement décryptage, le documentaire a réussi à parler politique tout en gardant sa position essentielle et nécessaire de neutralité. Aucun candidat n'a été mis en valeur, tous ont à peu près eu les mêmes formes de questions, et surtout à la fin de chaque passage, le même nombre de critiques et de compliments a été fait pour chaque candidat. Toutes ont même reçu un cadeau à la fin, donnant un aspect entre guillemets d'humour que l'on ne retrouve pas forcément dans les émissions présidentielles en temps normal. Donc ce nouveau format dans la campagne présidentielle a été plutôt bien accueilli, notamment sur les réseaux sociaux. On a pu y voir beaucoup d'éloges, mettant en avant l'aspect distrayant du documentaire, tout en ayant du fond. Et là je cite des tweets qui sont parus. Donc finalement, c'est l'idée principale qui en sort, un nouveau programme de campagne qui plaît au plus grand nombre.
Des réactions autour de cette chronique ? Oui, Marvin.
Oui, j'ai également regardé cette émission et j'ai beaucoup aimé. Parce qu'à un moment donné, pour chaque candidat, il y avait un garçon qui s'appelle Tenzin et qui pose une question en anglais. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que tous les candidats n'ont pas su répondre en anglais.
Sauf Emmanuel Macron, évidemment.
Bon, je ne voulais pas forcément les citer, mais...
non, mais tu ne peux pas dire tous les candidats. Non, il y en a un seul qui a réussi à...
Voilà, tous ont répondu avec leur niveau d'anglais. Certains n'ont pas souhaité répondre. Et je trouve ça bien parce que... Pour moi, un président de la République doit savoir parler anglais.
Tout à fait d'accord.
Moi, pour le coup, l'émission, je l'ai trouvée bien parce que vraiment, c'était... en fait, ça a emporté, c'était pas lourd. C'est pas comme un débat qu'on va regarder à la télé qui souvent pèse sur le public s'il est pas trop attiré par la politique. Là, c'était vraiment léger. C'était de la naïveté pure des enfants, quoi. Et puis, c'était marrant de voir aussi la réaction des politiques, de devoir faire face comme ça. C'était assez bien, je trouve.
Oui, Aïcha ?
Je trouve que ça fait écho à l'émission qu'il y avait eu sur M6 pendant les primaires, primaires de droite et primaires de gauche, en toute intimité, il me semble, présentée par Karine Le Marchand, qui recevait du coup des hommes politiques de tous bords, dont Marine Le Pen. Marine Le Pen avait participé d'ailleurs. Et du coup, ça montre une autre facette des hommes politiques. Ça les montre plus humains que ce qu'on pourrait croire en fait. Ce ne sont pas que des robots insensibles et vénales.
Oui, Rolando.
Moi, ça me fait penser. Moi, je trouve que c'est bien les programmes qui donnent des différentes approches aux hommes politiques. Au Costa Rica, lors des élections d'il y a 4 ans, des journalistes ont interviewé les candidats et ils ont arrivé envers eux et ils ont posé des questions sur la vie courante de tous les Costariciens. Ils leur ont demandé combien ça coûte un litre de lait. Quel jour la poubelle passe chez vous. Des choses de la sorte qui permettent aux citoyens de nous rapprocher plus de qui est celui qui va nous représenter et qui est-ce qu'il sait sur notre vie. Et les réponses, elles ont vachement changé l'opinion des Costariciens. Oui,
on l'a eu aussi avec le pain au chocolat, je te rassure.
Oui. 30 centimes.
15 centimes.
15 centimes le pain au chocolat. 15 centimes.
Oui, Mathilde.
Et moi, du coup, je voulais savoir, c'était quel candidat qui avait été le plus à l'aise avec les enfants et celui qui avait été le moins à l'aise.
Alors, ce qui ressort dans les médias, là, c'est pas un avis impersonnel, ce qui ressort dans les médias, c'est évidemment Macron, puisqu'il est plus jeune que les autres candidats, il a moins d'expérience et puis il est beaucoup plus dans l'approche du public. Celui qui a été le moins à l'aise, c'était François Fillon. Il était un peu plus distant, un peu moins à l'aise. Mais non, Mélenchon, les enfants ont adoré Mélenchon. Je crois que c'est le candidat que les enfants ont préféré. Parce que, évidemment, c'est Mélenchon, il parle, il parle comme.
Il a été adoré comme voilà, dernier débat, quoi.
Oui, voilà, c'est ça l'idée.
Eh bien, merci Caroline pour cette chronique. Tu nous as fait découvrir ce programme télévisuel. Programme qui fait intervenir les enfants auprès des candidats politiques. Et Aïcha, toi, avec ta chronique, tu vas nous parler d'un film qui va plaire aux enfants aussi, non ?
Pas que, s'il te plaît. Respecte-moi. Donc en effet, je vais vous parler du film qui est sorti mercredi 22 mars. Il s'agit de La Belle et la Bête, un nouveau film de Disney, et une réadaptation du grand classique qu'on a tous connu. Personnellement, j'ai épuisé 3 ou 4 cassettes, ma mère les a rachetées plusieurs fois. J'ai grandi avec celui-là. Donc je l'attendais avec impatience, je l'ai attendu nerveusement parce que j'avais vu les précédents comme Cendrillon ou Le Livre de la Jungle qui avait été une grande déception pour moi, pour mon cœur d'enfant. Donc du coup, je vais vous parler de La Belle et la Bête. Donc pour commencer, on va parler du casting. Donc on a Emma Watson qui fait Belle. Donc voilà, on a Luke Evans qui joue le rôle de Gaston. On a Dan Stevens qui joue le rôle de la Bête et donc du prince qui, petite parenthèse, s'appelle Adam. Personne ne le sait, mais il s'appelle Adam. On a Josh Gad qui joue le rôle du fou. Et il faut savoir sur ce petit personnage-là qu'il a été, que les passages où le fou apparaissait, notamment dans la chanson de Gaston, il a été censuré en Malaisie et en Russie parce qu'ils l'ont fait gay. Ils ont fait le personnage homosexuel. Et ça donne un côté punchy, ça met un peu de peps, ça change complètement du classique qu'on avait pu avoir du fou un peu idiot. On a Ewan McGregor qui joue le rôle de Lumière, qu'on peut voir à la fin du film. Enfin bref, tout le monde sait qu'il redevient humain, je spoil pas. Ian McKellen qui joue le rôle de Big Ben. Et on a Emma Thompson qui joue Mrs. Samovar. Donc Mrs. Samovar, c'était la théière avec son fils Zip. Je suis allée le voir en avant-première parce que je suis une ricos. Et parce que mes parents m'aiment. On en revient toujours à mes parents, je les aime. Donc je suis allée le voir en avant-première le 18 mars, journée nationale de la meuf qui pèse, parce que c'était mon anniversaire. Et j'avais peur d'être déçue, mais j'ai fait mon enfant sensible et j'ai pleuré dès la première minute parce que je suis sensible, comme je viens de le dire. Non, parce qu'en fait, voir ce dessin animé se matérialiser avec de vrais gens, des êtres humains comme vous et moi, fait de chair et d'eau, ça m'a émue. Ça m'a émue. Il faut savoir que le dessin animé se base... Te moque pas, Zino. Il faut savoir que le dessin animé se base pas seulement sur le dessin animé de Disney, qui a reçu pas mal d'Oscars, d'ailleurs, il faut le souligner. Mais également sur le conte. Donc il y a la référence à la fleur que le père de Belle va chercher dans le jardin de la bête et c'est comme ça qu'il se fait capturer. Et il y a des petits moments qu'on n'a pas dans le dessin animé, je vais pas spoiler, mais il y a des chansons en plus, il y a des scènes en plus, on en sait plus sur le passé de Belle et sur le passé de la bête. Les personnages sont très bien interprétés. Il y en a qui pensent que toutes les réadaptations des films Disney sont des pompes à fric, ce qui est fort probable, hein, ne soyons pas innocents et ignorants. Mais c'est une très belle adaptation. Elle faisait peur à tout le monde parce qu'on a vu la catastrophe de Cendrillon. Hein, c'était quoi cette robe ? Le Livre de la Jungle, l'enfant jouait très mal. Heureusement qu'il y avait les animaux en mode synthèse. C'est ma petite minute culture. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc voilà, donc franchement, allez le voir. Moi, c'est mon avis parce que je suis une grande fan de Disney et plus particulièrement de La Belle et la Bête qui a bercé mon enfance et encore mon adolescence et encore ma période adulte. Hein. Je m'en lasserai jamais, je pense que je collerai mes enfants devant. Mais c'est une très belle adaptation. Il y a eu 170 millions d'entrées à la sortie du film, donc en tout et pour tout, partout dans le monde. C'est énorme. Et voilà, donc je vous conseille d'aller le voir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça.
C'est pas une question, c'est une remarque. Tu m'as spoilé la fin, donc je te déteste.
Mais ça, c'est pas de ma faute si t'as pas de culture. Enfin, y a pas...
Moi, je savais pas hein, qu'il redevenait humain, la chandelle et tout. Hein.
Merci Aïcha pour ta chronique filmique. Eh bien, une lumière va devenir un être humain, ou un être humain peut devenir une lumière, c'est ça. Antoine et Zino, est-ce que vous qui avez un top 8 des métiers les plus insolites, est-ce que ça fait partie de ces métiers-là?
Alors non, on est déjà humain, donc on compte pas redevenir humain de toute façon. Mais oui, donc nous qui sommes étudiants, avec l'approche des inscriptions pour les écoles et les masters, nous sommes tous un peu perdus. Et avec Antoine, lors d'une profonde discussion autour de notre avenir, nous avons décidé de rechercher de nouveaux métiers, pourquoi pas. Et Antoine est tombé sur une liste des métiers les plus insolites. Mathilde, s'il te plaît, jingle. Merci Mathilde pour ce jingle. Alors, number 8.
Alors, en number 8, on a le nounou de panda. Alors évidemment, ça se passe en Chine. Et en Chine, il existe un métier qui consiste à faire des câlins, qui consiste à nourrir et qui consiste à bichonner des petites peluches vivantes que sont les pandas. Oh. C'est le centre de recherche de protection de pandas géants qui recherche très régulièrement des pandas-sitters. Donc je sais qu'autour de la table, il y en a qui seraient intéressés par ça. Donc sachez qu'il faut quand même, y a quand même des conditions pour devenir pandas-sitter. Il faut notamment avoir 22 ans et connaître le mode de vie de ces animaux. Donc j'en connais qui sont qualifiés autour de la table. Si vous voulez être payé environ 2000 euros par mois, eh ben, je vous propose cet emploi à plein temps qui se situe en Chine. C'était pour le nounou de panda. Maintenant, on passe au number 7.
Alors, le numéro 7, c'est le sexeur de poussins. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous en avez sûrement déjà entendu parler sur Facebook, il y a une vidéo qui tournait. C'est un métier qui consiste en la reconnaissance des poussins femelles et que les producteurs gardent car ils sont plus rentables. C'est pas si facile que ça, on peut penser qu'il suffit de savoir, voilà, comme le montre Aïcha, de retourner le poussin, mais non, il faut savoir reconnaître chaque poussin. Mais ce qui est le plus intéressant dans ce métier, le plus insolite, c'est bien évidemment le salaire, qui est de 55 000 euros annuels, donc c'est beaucoup plus que le salaire de mes parents, par exemple. Donc, donc voilà. Donc passons au number 6.
Donc en numéro 6, je vous propose de devenir gardien d'île. Je pense que ça aussi, vous en avez beaucoup entendu parler, vu que ça a beaucoup tourné. C'est ce métier qui est décrit comme le meilleur job du monde, tout simplement, qui a eu lieu en Australie en 2009, où une entreprise proposait un CDD de 6 mois, rémunéré 78 000 euros pour ces 6 mois, pour tout simplement rester sur une île paradisiaque. Cette île, c'est l'île d'Hamilton, qui est située au cœur de la barrière de corail. Et donc l'heureux élu qui a pu faire ça avait pour but, tout simplement, d'effectuer quelques travaux sur l'île, mais surtout de l'explorer. Voilà, c'était le gardien d'île. Je ne sais pas si cette occasion se représentera prochainement, mais si ça présente, moi je veux bien le faire. Voilà. Number 5.
Alors maintenant, un métier que je trouve un peu moins plaisant tout de même, c'est pousseur de métro. Alors au Japon, le métier de pousseur de métro est assez commun. Comme son nom l'indique, le but est de pousser les voyageurs dans les wagons pour qu'ils rentrent, pour qu'ils soient tous entassés. Voilà. Bon, c'est pas un métier très apprécié, hein, comme vous vous en doutez. Mais en tout cas, au Japon, ça fait un moment qu'il est exercé et c'est rentré dans le quotidien des Japonais.
Donc, en numéro 4, je vais vous parler des sirènes de parc-mètre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On est en Australie, dans le Queensland, et on peut donc devenir sirène de parc-mètre. En fait, ce sont des jeunes demoiselles qui sont employées par la ville pour renseigner les touristes, tout simplement, où se situent les parc-mètres au bord des plages. Alors pourquoi des sirènes? C'est parce que en fait c'est payant. Donc du coup on s'est dit c'est plus aguicheur de mettre des jeunes femmes pour indiquer où on peut payer, tout simplement. Donc voilà, si vous êtes une jeune femme et belle, bah vous pouvez devenir sirène de parc-mètre en Australie.
Ah, je connais une chanteuse de l'Eurovision.
Voilà, maintenant je vous propose de passer au number 3.
Alors est-ce que parmi vous certains font des mots croisés?
Oui.
Alors sachez qu'il y a un métier. Pour les mots croisés, c'est verbicruciste, exactement. Mm-hmm. Alors, ce sont des personnes qui sont chargées de créer tout simplement les mots croisés. C'est long, donc ils font ça toute la journée, donc on s'en doute que c'est pas la grande joie. Et de plus, c'est pas super bien payé, car maintenant ce sont des ordinateurs qui font le travail à leur place. Voilà, il en existe que très peu en France. On passe maintenant au number 2.
Donc pour le deuxième, je vais vous parler de cette fois-ci des pêcheurs de vélo. Alors, pêcheur de vélo, je pense, enfin, on peut se douter d'où ça se passe, c'est Amsterdam. Amsterdam qui est notamment réputée pour être la capitale de la bicyclette, puisque la légende dit d'ailleurs qu'il y a plus de vélos que d'habitants là-bas. Et donc forcément, pour avoir la chance d'y être allé, on remarque qu'il y a beaucoup de vélos dans les canaux. Et pour éviter l'encombrement des cours d'eau, et bah, y a tout simplement des employés de la ville qui sont chargés de repêcher les vélos à l'aide d'un bateau. Et juste pour la petite info, on estime qu'il y a environ 15 000 vélos qui sont ramassés tous les ans à Amsterdam. Donc voilà un métier d'avenir, peut-être.
Pourquoi il y a autant de vélos
à Amsterdam?
Bah non, dans l'eau.
Bah parce que c'est que, enfin c'est là-bas c'est que des canaux et
bourré, hein.
Ouais, déjà il y a cette histoire là, mais enfin c'est quand même beaucoup de canaux et à chaque fois les gens posent leur rambarde, posent les vélos au bord des rambardes et ça se casse souvent la gueule, quoi. Et maintenant le number one.
Merci Antoine pour cet accent. Alors selon moi, l'un des meilleurs métiers est testeur de toboggan.
Oh
alors, alors effectivement, c'est un métier idéal pour les enfants que sont Aïcha et Caroline autour de la table.
Merci.
Et oui, et oui, une personne est payée pour tester les toboggans du monde entier. Donc non seulement un test de toboggan, en plus les voyages sont payés donc à travers le monde pour tester les toboggans. Et de plus, bah cette personne est rémunérée. Donc est assez bien rémunérée car c'est 27 000 euros par semestre. Donc 27 000 euros par semestre, donc c'est-à-dire voilà, 54 000 euros par an. Donc selon moi, c'est l'un des meilleurs métiers.
Le panda, c'est bien aussi.
Le panda, gardien c'est... de l'île, c'est mieux.
Bah justement, voilà, on vous a présenté les métiers et on voulait savoir avec Zino si bah, y a l'un de ces métiers qui vous a convaincu, si on a pu permettre de...
Susciter des vocations.
Si on a, voilà, si on a pu susciter, pardon.
Est-ce qu'on peut cumuler si plusieurs emplois? Genre gardien d'île avec les pandas.
Gardien d'île avec
comment,
les pandas.
Comment tu vas faire pour être en Chine et...
Mais tu peux garder une île près de la Chine. Voilà, merci Marvin du soutien. Voilà, enfin, ça paraît logique. Il y a plein d'îles autour de la Chine. Oh, ils ne mangent pas de chien.
Non, mais toi, tu veux le beurre, l'argent du beurre
et la toute crémière.
Et la burette.
Ça me regarde dans les yeux. Et la burette.
Alors, déjà, c'est le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Non, sauf que Aïcha, elle est arabe, du coup, on dit la burette.
Merci Antoine et Zino pour vos idées de métiers insolites. C'est sur cette chronique que l'émission s'achève. Merci à l'UVSQ, Marmite FM, Nouradine et Fred à la technique de nous permettre de nous exprimer chaque semaine. Un grand merci à vous, chers auditeurs, de nous écouter sur Marmite FM. Ça nous fait plaisir. Pour rappel, Factualité est présent sur les réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas, visitez notre page Facebook Factualité UVSQ et notre compte Twitter Factualité78. On se retrouve la semaine prochaine avec toujours plus d'invités, de chroniques et d'animateurs. D'ici là, n'oubliez pas, restez...
cultivés ! Factualité !
L'émission des étudiants de l'UVSQ.
Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines.
Actu de la fac,
bon plan étudiant,
chronique,
débat,
coup de gueule,
clash,
rubrique culinaire, factualité,
c'est tous les samedis à 10h,
le mardi à 15h,
le jeudi à 15h,
et le mercredi à 20h.
Factualité sur Marmite FM
88.4.